Dimanche 15 mars, premier tour des élections municipales. Au Mans, c'est un record, une dizaine de candidatures. Avec le Café des municipales, Sweet FM vous permet d'y voir plus clair. Un podcast présenté par Jonathan Latter.
Sweet FM Le Mans 2020. Le Café des municipales.
La rédaction de Sweet FM s'installe dans un café et donne la parole aux candidats à la mairie du Mans. Ça s'appelle le Café des Municipales, un podcast exclusif dans le but de vous aider à faire votre choix le 15 mars. Bonjour Noéline Garon.
Bonjour Jonathan Latter.
Et aujourd'hui nous recevons un candidat habitué du scrutin.
Oui, avec nous Yves Cher, bonjour.
Bonjour.
Yves Cher, nous vous interrogeons sur vos motivations, vos sensibilités, votre programme, avant de vous soumettre aux paroles des Manceaux, d'écouter le mot du gérant de l'établissement et enfin de vous laisser une carte blanche en conclusion de cet entretien qui durera une trentaine de minutes. Mais d'abord, la question habituelle sur le choix du lieu. Nous sommes au Maryland, dans le quartier de Pontlieu. Est-ce que c'est un endroit où vous avez vos habitudes et est-ce que vous aimez ce genre de lieu de vie ?
Bah oui, je suis venu très souvent ici pour, avec des rendez-vous pour discuter politique ou autre d'ailleurs. Et donc, c'est un quartier que j'apprécie. Puis
vous habitez le quartier ?
Oui, enfin, j'ai déménagé récemment, mais j'ai changé un peu d'endroit. Mais pendant 30 ans, effectivement, j'ai habité ici. Et donc, le dimanche, en général, je suis sur le marché de Pontlieu à vendre le journal Lutte ouvrière et à discuter avec la population, avec les gens, avec les travailleurs.
Et en ce moment, à distribuer des tracts, j'imagine.
À distribuer des tracts. Surtout discuter.
La première séquence du Café des municipales, c'est celle qui est consacrée au candidat, à son portrait. Un portrait que brosse vous concernant Noéline Garon.
Et vous êtes le seul candidat qui était déjà tête de liste aux dernières municipales en 2014 et même en 2008, toujours pour le parti Lutte ouvrière. Vous êtes né au Mans et avez passé une partie de votre jeunesse à Paris avec vos parents. Votre mère était institutrice et votre père employé de banque. D'abord égoutier à la ville de Paris, vous êtes ensuite embauché chez Renault à Boulogne-Billancourt. Après fermeture de l'usine, vous revenez au Mans. Aujourd'hui, vous avez 63 ans et êtes à la retraite. Ancien ouvrier de fabrication chez Renault dans la capitale sartoise, un poste que vous avez occupé pendant près de 40 ans. Un engagement militant aussi dans le monde professionnel puisque vous avez été élu délégué du personnel en 91. Fidèle aussi au Parti des Travailleurs puisque vous êtes militant depuis les années 70. L'opposition grand patronat travailleur est profondément inscrite dans votre ADN. Et en 98, vous obtenez le seul siège remporté par l'extrême gauche à la région Pays de la Loire. On vous retrouve ensuite à chaque scrutin, européenne, législative, municipale évidemment. Il ne manque que la présidentielle finalement. Et souvent candidat, mais pas souvent élu donc. En 2014, votre liste a fait 2,4% contre 2,25% 6 ans plus tôt. Dernier candidat à vous être lancé cette année dans la bataille pour ces municipales, pour faire entendre le camp des travailleurs, c'est le nom de votre liste. Finalement, quelle est l'utilité de votre candidature pour les habitants de la ville, pour les Manceaux ?
Comme le titre de notre liste l'indique, c'est faire entendre le camp des travailleurs. Parce qu'on va s'adresser justement dans cette campagne aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités qui ont été des travailleurs évidemment, à la population, enfin à tous ceux qui n'exploitent personne et au contraire qui subissent les coups de ceux qui dirigent vraiment la société, c'est-à-dire les grands groupes industriels et financiers et de la distribution aussi, dont le dernier en date justement c'est l'attaque brutale sur nos retraites, parce que même si c'est le gouvernement qui décide de faire une loi, c'est le grand patronat qui en sera le grand bénéficiaire, puisque aujourd'hui, avec la crise économique, la crise de leur économie, justement, le marché se fait. Il y a de plus en plus de pauvreté, donc les bénéfices ne peuvent plus se faire sur l'élargissement du marché, comme ils disent. Et donc, ils pillent de plus en plus les caisses publiques. Ils veulent en fait que l'essentiel de l'argent public aille dans leurs poches sous le biais de subventions diverses. Enfin, le CICE est le plus connu. Du coup, ça au détriment justement des services publics de la population et effectivement de l'argent que l'État met dans nos retraites. Donc tout cet argent, le grand patronat veut se l'accaparer pour continuer à maintenir ses profits.
Mais les autres listes de gauche, je pense à Europe Écologie Les Verts, au Parti Socialiste ou aux listes dissidentes, elles ne parlent pas à ces gens-là, aux chômeurs, aux travailleurs, déjà ?
Pas en tant que tel. Justement, je dirais, on n'a qu'à voir déjà le nom des différentes listes, d'ailleurs qu'elles soient de droite ou de gauche. Il y a tout un jeu de mots avec le mot, avec la ville du Mans.
Alors, un jeu de mots, non, mais le Mans est présent.
Le Mans est présent, effectivement, mots, comme ils parlent tous de...
Ça vous a pas échappé, c'est une élection municipale. Hein.
Absolument, mais justement, ces élections municipales, d'ailleurs comme toutes les autres élections, c'est jamais ça qui change la vie des travailleurs. C'est les grands mouvements sociaux qui ont ce pouvoir. Les élections, à mon sens, justement, pour que justement les travailleurs puissent crier au moins leur colère contre tout ce qui se passe, tous les coups qu'on est en train de prendre, justement, pour le profit du grand patronat. Il y a de plus en plus de pauvreté, à tel point qu'il y a 27 milliardaires maintenant dans le monde qui possèdent autant que la moitié
alors,
de l'humanité.
Alors, je crois qu'on n'a aucun milliardaire au Mans, on est d'accord. Hein.
Il n'y en a pas au Mans, mais...
Non, mais j'entends bien que vous vouliez... vous avez... Votre objectif, c'est de profiter de cette tribune, mais nous allons vous interroger sur des sujets manceaux, hein, je vous le dis.
Oui.
On ne va pas faire un jeu durant ces 30 minutes. Hein. On ne va pas parler des milliardaires de la planète. On va parler du cas du Mans, précisément, durant la vingtaine de minutes qui nous reste à passer ensemble.
Cela dit, les problèmes qui se posent au Mans, comme d'ailleurs dans toutes les municipalités, sont des problèmes nationaux. Une mairie ne peut pas résoudre le problème du chômage, ne peut pas résoudre le problème de la faiblesse des retraites, des salaires ou des allocations. Elle ne peut pas régler le problème de l'écologie. Elle ne peut pas régler le problème de la crise économique.
Alors, et pourtant, vous parlez d'écologie. Les associations qui défendent le climat, la planète, elles estiment que c'est le dernier mandat et que 50 à 70% des décisions qui vont permettre de faire baisser les gaz à effet de serre se prennent au niveau local. Elles sont spécialistes de ces questions, ces associations.
Ils sont peut-être spécialistes, mais je dirais qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Les véritables responsables du réchauffement climatique, de la pollution, ce sont les grands groupes industriels et financiers, les groupes de l'automobile, de la chimie, du pétrole, ça au niveau mondial. Et encore une fois, l'écologie ne pourra pas se résoudre à l'échelle d'une ville ou même d'un pays. C'est un problème mondial. Et tant que justement ceux qui dirigent véritablement la société, c'est-à-dire les grands groupes industriels et financiers, tant que ceux qui seront aux commandes de la société, comme leur profit passe avant tout, on a pu voir, il y a un exemple simple qui s'est passé avant les vacances l'année dernière, l'usine Lubrizol.
À Rouen.
Oui, absolument. Sans arrêt, à la télé, dans les journaux, enfin partout, on nous dit que chacun, on peut faire notre petit geste pour la planète, en ceci, en faisant trier nos déchets, en faisant ceci, en faisant cela. Donc la personne qui ferait tout bien, comme on lui dit, comme si c'était, ça dépendait de l'individu en lui-même, même s'il irait jusqu'à faire des toilettes sèches chez lui, puisqu'il paraît que c'est mieux que ce que...
Vous n'en avez pas chez vous ?
Non. Eh bien, ça serait, si on habite à côté d'une usine comme Lubrizol qui fait passer la loi du profit avant la sécurité, eh bien...
Mais globalement, si on suit votre raisonnement, même si, lorsqu'on est citoyen, ça ne change pas la face du monde de trier ses déchets, d'avoir des toilettes sèches. Mais finalement, c'est bien quand même de trier ses déchets quand on est citoyen, non ?
Attendez, ça, je ne dis pas... Attendez, je ne dis pas le contraire. Mais ceci dit... C'est une goutte d'eau dans la mer, parce qu'effectivement, les grands trusts de l'automobile, eux, ils truquent leur moteur, puisque ça a fait un peu le...
On va parler de Renault tout à l'heure, on va vous interroger sur votre ancien employeur. On va quand même dérouler le fil de cet entretien, parce qu'il y a des thématiques, les questions liées à la politique, même si on a commencé à vous interroger sur votre liste et son utilité. Lorsqu'on regarde de près, justement, cette liste, Yves Chir, les 5 premiers noms sont similaires à ceux de la dernière élection en 2014. Alors, manque d'idées, problème de renouvellement.
Non, c'est... déjà, il y a quand même une bonne partie de la liste qui était déjà présente, effectivement, là. La moindre des choses, justement, de notre point de vue, c'est de redemander aux personnes qui avaient accepté d'être sur la liste et donc de rendre public leur conviction, puisque les listes de vote sont publiques, évidemment. Donc, la moindre des choses, c'est de leur redemander s'ils sont repartants, s'ils sont toujours d'accord avec ce qu'on dit. Et donc, on leur a demandé.
Mais vous n'avez pas trouvé de nouvelles personnes qui...
Mais si, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été trouvées, justement...
Ah, les cinq premiers, c'est les plus importants, quand même. Vous, par exemple, vous n'avez pas envie de confier la défense du camp des travailleurs à quelqu'un de plus jeune ?
Je dirais que c'est pas moi qui ai décidé d'être là. C'est Lutte Ouvrière au niveau national. On a décidé d'être présent dans le maximum de villes où on pouvait... Là, et sur Le Mans, ce sont mes camarades qui ont décidé que ce serait moi qui aurais l'honneur, encore une fois, de porter la candidature de la liste Lutte Ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.
Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec toutes ces candidatures à gauche, la ville du Mans puisse basculer à droite ?
Je vous dirais, le problème, c'est pas tant la... Je vais peut-être vous faire réagir, mais ceci dit, depuis des années, dans les gouvernements, on a eu la gauche, on a eu la droite. Des fois, ils ont gouverné ensemble avec ce qui s'appelait la cohabitation. Aujourd'hui, on a Macron. Juste avant lui, il y avait Hollande. Et d'ailleurs, c'est Hollande qui a fait Macron, si on peut dire, dans une certaine mesure. C'est tout le temps la même politique. Gauche ou droite, moi je dis c'est les deux bouts d'un même bâton pour les travailleurs. La gauche, entre guillemets, c'est la loi El Khomri, hein, c'est une loi qui a détruit les droits des travailleurs. Donc les travailleurs, il ne faut pas qu'ils se raisonnent en fonction des vieux clivages, justement la gauche, la droite, c'est justement, il y a les travailleurs et il y a le grand patronat. Et effectivement, nous n'avons aucun intérêt commun. Avec eux-mêmes, c'est des intérêts diamétralement opposés.
On passe à présent au thème de campagne. On va vous interroger, notamment Yves Cher, sur la question du commerce avec le dossier Bénair. Ce projet, vous le connaissez sans doute. Doit-il voir le jour cette zone commerciale aux portes du Mans qui comprend le déménagement de l'hypermarché Leclerc des Fontenelles, l'ouverture d'une galerie marchande de 70 à 80 boutiques et puis surtout l'installation d'IKEA, le mastodonte
de l'ameublement.
Merci beaucoup Yves Cher de venir à mon secours. Voilà. Alors, est-ce que ce projet, pour vous, doit voir le jour ou pas ?
Je dirais que, dans une certaine mesure, il est l'illustration, même si ce n'est pas la plus brutale, de la domination, même de la dictature que les grands groupes ils peuvent exercer sur la société tout entière, sur la population, et ça, simplement en fonction de leurs profits, et sans se préoccuper de l'environnement, ou même de ce que pense la population. Donc, c'est vraiment une... Effectivement, c'est l'expression de ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Donc, nous combattons depuis tout le temps, justement, c'est notre thème de campagne, lors des campagnes électorales, mais de toute façon, dans la vie professionnelle, c'est le cas aussi. Nous combattons les grands groupes industriels et financiers, et donc de la distribution. Ce qui est certain, c'est que nous... on ne servirait pas la soupe à Leclerc et à Ikea, quoi. Parce que effectivement, ces grands groupes, pour donner un exemple, généralement, ce sont les municipalités qui leur font des ponts d'or pour venir s'installer. Ensuite, ils restent le temps que ça leur rapporte. Et quand ils jugent que ça ne leur rapporte plus assez, ils se partent ailleurs. Et en fait, ce sont les municipalités qui doivent, on va dire, s'occuper des friches qui restent.
On va aller assez loin des grands groupes, comme vous avez dit, plutôt les commerces indépendants de centre-ville. Là, ce sont des personnes qui parfois ont investi leurs économies. On fait comment pour les aider, ces commerçants indépendants qui ont de grandes difficultés ?
Je dirais que...
Je pense à la rue Gambetta, où il y a beaucoup de cellules vides aussi, vous voyez, la rue nationale.
Oui, je vois, mais pour tous les commerçants, le gros problème, c'est pas tant... je dirais, c'est le fait que les couches populaires, les travailleurs, la population, a justement les retraites baissent, les salaires n'augmentent pas, les allocations baissent, moins il y a d'argent, et effectivement, les gens comptent, et font des achats en moins et vont au moins cher. Donc c'est une question.
La question, par exemple, d'un manager de ville, ça vous parle pas, ça, un manager de ville qui pourrait repenser un petit peu la façon dont le commerce fonctionne en centre-ville du Mans ? Vous êtes pour ou contre ?
Je dirais que je suis ni pour ni contre, parce que de toute façon, le gros problème, je vous le dis, ce sont les ressources que la population. Pour acheter, il faut de l'argent. Or, aujourd'hui, la population en a de moins en moins.
Oui, mais la France n'est pas un pays du tiers-monde, Yves Cher, quand même.
C'est pas un pays du tiers-monde, mais ceci dit, il y a de plus en plus de pauvreté. Même les associations de style Abbé Pierre, Restaurant du Cœur, sans arrêt, ils disent qu'on s'enfonce de plus en plus
la pauvreté
dans,
augmente, ça,
dans
c'est
la
un
pauvreté.
Fait, oui.
Et bien, effectivement, ça a obligatoirement une répercussion sur les achats de la population. Avant, on pouvait, pourquoi pas, on est dans un café, aller avec des amis, payer sa tournée, etc., etc. Maintenant, il y a de plus en plus les gens qui regardent ce qu'ils ont dans le porte-monnaie. Les attaques qu'il y a eu contre les chômeurs, avec la baisse des allocations qui en résulte, eh ben c'est du pouvoir d'achat en moins. La CSG, le RDS qu'a instauré le gouvernement l'augmentation pour les retraites,
oui.
Là, c'est de l'argent en moins pour les retraités. Je vous dis, chez Renault...
Ne parlez pas trop de Renault parce qu'on va vous interroger dessus. La question de la mobilité avant ça, les transports gratuits, il y a beaucoup de propositions. Alors le week-end pour certaines catégories de population, voire la totalité de la journée, ça dépend des listes. Vous y êtes favorable aux transports publics gratuits ?
Oui, bien sûr. Déjà, ça serait la meilleure façon justement de... qui revient souvent pour que les gens utilisent moins les moyens individuels qui peuvent être source d'ailleurs d'accidents, puisque plus il y a de voitures, effectivement, plus il y a de risques potentiels d'accidents. Il y a le problème, y compris de la pollution qui est générée par les moteurs. Il y a tout ça. Donc plus les transports collectifs sont utilisés, mieux c'est. Et donc, je pense qu'effectivement, il serait gratuit. Ça serait vraiment un encouragement. Mais la gratuité, je dirais, ne suffit pas. Encore faut-il aussi que...
On développe le réseau ?
Développer le réseau et que ça puisse fonctionner sur des très grosses amplitudes. Je vais encore reprendre... je ne vais pas prendre l'exemple de Renault, mais... avant, il y avait des cars de ramassage. Quand vous commencez le travail à 5h20, vous êtes obligé, il n'y a aucun moyen de transport collectif pour venir travailler dans une usine de la zone industrielle sud ou ailleurs. C'est
donc des
obligatoirement
travaux gratuits, mais plus tôt.
Plus tôt, plus tard, ça signifierait effectivement qu'il y ait certainement de l'embauche du personnel, parce qu'il ne serait pas question d'alourdir la charge de travail et les contraintes du personnel qui existent déjà dans les transports en commun. Mais ça, effectivement, la gratuité, je suis totalement pour.
Il y a également la question des modes de transport doux. Le vélo, les trottinettes, on en voit de plus en plus en ville. Hein. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée de leur faire davantage de place dans l'espace public ?
Je dois dire que je ne sais pas. Le vélo, je pense que on l'utilise plus pour les loisirs que pour le reste.
Aujourd'hui, maintenant, c'est en train d'évoluer quand même.
Ça évolue peut-être, mais je dirais... Même le vélo aussi, c'est une source de potentiel d'accident. Il y a quand même de plus en plus, malheureusement, de cyclistes.
Et si on ne veut pas avoir d'accident, on reste enfermé chez soi. Il faut
justement, les transports en commun gratuits pourraient justement permettre de
limiter. Plutôt le tramway
de
limiter. Que le vélo.
Dans une certaine mesure, cela dit, j'ai absolument rien.
Enfin, vous n'allez pas vous mettre à nous, les cyclistes qui nous écoutent.
Si vous êtes un cycliste
Moi, ce qui m'importe, c'est surtout
convaincu, je suis pour que vous puissiez faire du vélo en toute sécurité.
C'est surtout les gens qui nous écoutent. Hein. Ma personne importe peu. On passe au thème suivant. On va vous soumettre, Yves Cher, aux paroles des Manceaux sur des thèmes bien précis. On a évoqué Renault à plusieurs reprises. Néoline, c'est justement l'industrie, le premier thème de paroles de Manceaux.
Et justement, avec un exemple précis que vous connaissez bien, Yves Cher, puisqu'il s'agit de Renault. On l'aura beaucoup dit dans cette émission. Et le constructeur automobile a publié ses résultats il y a peu. Pour la première fois depuis 2009, la marque aux losanges perd de l'argent. La conséquence directe, cela pourrait être des suppressions de postes, voire des fermetures de sites. Écoutez Richard Germain, représentant CGT à l'usine du Mans.
Il faut savoir que chez Renault, on a un accord d'hyper-compétitivité et qui va être renégocié en fait là à partir du mois de juin. Et que la direction, pour engager ces discussions, elle crée la sinistrose. Elle dit que rien ne va plus. Peut-être qu'on va fermer des sites, enfin voilà, c'est du chantage. C'est pour faire peur aux salariés, pour dire il va falloir encore une fois resserrer la ceinture. Vous voyez, l'heure est grave, il faut encore faire des efforts. Alors que des efforts, eh bien depuis 2013, les salariés n'ont fait que ça. Donc eh bien là, dans le contexte actuel, ces annonces-là, elles visent surtout justement à mettre la pression sur les salariés.
Et ce que demande la CGT, c'est le rapatriement de montage des voitures en France. Est-ce que c'est vraiment réalisable selon vous ?
Je dirais d'abord ce que Richard Germain a pu dire, je suis totalement d'accord avec lui. Effectivement, Renault se sert de la situation pour faire un chantage. Mais je rajouterais que justement, ça fait depuis 2010, Renault n'a pas arrêté année après année de battre des records de vente de voitures, de bénéfices. Rien que les 10 derniers, depuis 2010, justement, il y a eu 25 milliards de profits. Où cet argent est-il allé ? Pas dans les poches des travailleurs, puisque, je vous dis, les augmentations de salaire, ça tournait autour de 20 à 30 euros
vous
par mois.
Vous êtes retraité depuis peu, hein, juste...
Depuis peu, oui.
Je préciser. Hein.
1er août 2018. Et donc, et par contre, des suppressions d'emplois, il y en a eu. Il n'y a jamais eu autant de suppressions d'emplois, justement, que depuis 2013 et les plans de compétitivité de Renault. Donc, il faut arrêter, justement, que... Justement, on entend beaucoup la direction de Renault et puis les médias qui la relayent comme pleureuse sur la situation. Mais les caisses de Renault sont pleines. Et justement, et comme le dit Richard Germain, la direction veut mettre la pression, veut faire peur pour justement demander encore plus d'efforts aux salariés. Je me rappelle d'ailleurs, ça existe toujours pour dire, justement le premier accord compétitivité qui date de mars 2013, ça s'est traduit pour l'usine du Mans. On travaille 21 minutes de plus gratuites par jour. C'est-à-dire, au lieu de commencer à 5h30 le matin, l'équipe du matin commençait à 5h20. L'équipe du soir, au lieu de terminer à 21h30, elle termine à 21h40. On avait 40 minutes pour manger, on n'en a plus que 35. Et la pause de 20 minutes s'est transformée en pause de 14 minutes, puisqu'il y a eu 21 minutes gratuites depuis 6 ans. Bon, c'est une détérioration totale des conditions de vie, de travail des salariés. Et pendant ce temps-là, effectivement, Renault a pu distribuer des milliards et des milliards à ses actionnaires. Rien que les 3 dernières années, il y a eu plus d'un milliard d'euros chaque année qui ont été distribués aux actionnaires, ce qui est énorme. Et là, même si c'est tombé à 300 millions, je crois qu'ils vont distribuer. Je vais pas dire les pauvres, mais
vous n'allez pas plaindre les actionnaires quand même.
Comment ?
Vous n'allez pas les plaindre les actionnaires.
Absolument. C'était ironique.
Oui, j'entends bien.
Mais effectivement, il faut ces grands groupes justement, leur compte déjà, ils disent bien ce qu'ils veulent.
Ah, il faut qu'on enchaîne sur le second thème. Hein. Je suis désolé. On a bien compris votre sentiment sur Renault. Autre thème. Vous allez voir, vous allez également avoir des choses à dire. C'est celui de la santé, Noéline.
Et oui, avec des services médicaux en tension, que ce soit dans le milieu hospitalier comme dans les cabinets. Pas si simple de trouver un médecin, par exemple, au Mans. C'est le constat d'Abdelatif Ajaji, médecin urgentiste au Pôle Santé Sud.
Il y a à peu près 40 000 patients sans médecin traitant actuellement sur le Mans. Il y a des services d'urgence qui sont sous tension, qui sont malades. Vous pouvez choisir au hasard un cabinet médical, entrer, discuter avec un médecin. Il vous dira que les problèmes s'accumulent. En tout cas, sur la Sarthe, sur le Mans, une grave crise sanitaire s'annonce.
Alors, des médecins surchargés au Mans qui ne prennent pas de nouveaux patients, Yves Cher, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour attirer des praticiens ici au Mans ?
Je dirais que concrètement, ça, je ne sais pas. Ce qui est certain, effectivement, le constat qui est fait, c'est que, d'ailleurs, moi-même, quand mon médecin est parti à la retraite le 1er janvier 2019, j'ai mis quasiment un an pour retrouver quelqu'un qui voulait, un médecin qui était d'accord pour me prendre, parce qu'effectivement, il y a un manque cruel.
Est-ce qu'il faut, selon vous, obliger les généralistes à s'installer dans des zones précises ? Est-ce qu'il faut que le gouvernement le décide ?
Ça pourrait être, je dirais, plutôt que de toute façon le bâton, je dirais que ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faudrait que l'État investisse beaucoup plus dans la santé. On peut le voir, il y a la crise au niveau des hôpitaux, il y a eu le mouvement des urgences, des urgentistes dans les hôpitaux, qu'ils soient d'ailleurs les hôpitaux publics, mais aussi dans les cliniques privées.
Justement, ce monsieur était du pôle santé.
Oui, absolument. Voyez, privé. Même, je crois que dernièrement, la semaine dernière, je crois, il y a les médecins qu'on fait grève parce qu'ils trouvaient que la situation, et ils étaient d'ailleurs soutenus par tout le personnel, et que la situation était plus tenable pour les conditions d'accueil des gens qui venaient là. Alors effectivement, dans ce cadre-là, il y aurait une mairie qui serait dirigée par des révolutionnaires, je serais maire du Mans, que ce soit au niveau du public comme au niveau du privé, par rapport à la santé. Je ne ferai pas de promesses, parce que justement, je dis que tous ceux qui font des promesses, au mieux, c'est des maudits menteurs, au pire, ce sont des menteurs. Nous, ce qu'on dit dans cette campagne, c'est que rien ne se fera sans la mobilisation de la population. Et donc, en tant que maire, ou même simplement conseiller municipal, on essaierait d'organiser justement la population en concertation avec le personnel de santé, donc des hôpitaux ou des cliniques, les patients aussi, pour justement mettre en échec justement ce plan de casse de la santé. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens, même indépendamment du problème du nombre de médecins, qui se soignent dans le pays, qui ont les moyens de se soigner, et ils vont plus chez le médecin, etc. Ça revient de plus en plus cher, même justement aux gens, puisque vous le savez aussi bien que moi, quand on va chez le médecin, on est remboursé à 1 euro en moins, les boîtes de médicaments, c'est 50 centimes, etc. Donc tout ça fait que la médecine devient de plus en plus difficile à être accessible, et donc c'est absolument anormal comme situation, puisque c'est la santé des gens. Et c'est une chose, justement, ce sont les gouvernements précédents, aussi bien de gauche que de droite, qui ont institué l'idée que le service public devait être rentable. Et bien, pourquoi la santé devrait être rentable? L'armée est complètement inutile, fait péter des bombes, ça tue des gens, etc. On dit jamais qu'elle n'est pas rentable. Par contre, on veut rentabiliser la sécurité sociale, on veut rentabiliser... Et bien ça, je trouve ça inadmissible. Et effectivement,
et pas loin d'ici, Yves Cher, il y a une maison de santé qui a été créée, boulevard Churchill. Oui. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, quelque chose que vous pourriez développer si vous êtes maire demain au Mans, dans d'autres quartiers?
Pourquoi pas? Mais encore faut-il, justement, il y a plein de choses qui... Encore faut-il en avoir les moyens financiers. Or, au niveau de l'État, de plus en plus, les dotations qui sont faites aux communes sont en baisse, et par contre, ce qu'on leur donne en charge à faire, ça augmente sans arrêt. Donc, fatalement, ça crée des problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, on ne fait pas de promesses comme les politiciens. Nous, on dit que la seule solution, c'est la mobilisation de la population, la mobilisation des travailleurs, pour justement essayer de s'en sortir, de retirer justement à ceux qui dirigent réellement la société, c'est-à-dire pas le gouvernement qui dirige rien du tout.
On s'éloigne du thème, Yves Cher. On va enchaîner avec le troisième thème de Parole de Manceau, celui de la vie étudiante.
Et avec près de 13 000 étudiants au Mans, à titre de comparaison, on trouve plus de 30 000 étudiants à Tours, un campus Manceau loin du centre-ville. On a rencontré Noémie, âgée de 18 ans.
Je trouve qu'il y a quand même ce qu'il faut en termes d'études ici. Le problème, c'est que l'université est assez excentrée. Le problème, c'est que en termes de vie étudiante, les étudiants sont quand même pas au centre, et c'est un peu dommage parce que ça permettrait qu'il y ait un peu plus d'activité. Dans les villes voisines, en général, on essaye quand même de mettre tout ce qui est études, etc., dans les centres, ce qui permet d'avoir de l'activité, notamment le soir pour les sorties étudiantes, etc. Et au Mans, c'est vrai qu'on voit pas trop ce genre de choses.
Alors, pour attirer des étudiants ici au Mans, est-ce qu'il ne faut pas rapprocher tout simplement les jeunes du centre-ville, Yves Cher?
Peut-être. Je dois dire que...
Il n'y a pas réfléchi avant.
J'y ai pas, sur ce plan-là, j'y ai pas spécialement réfléchi. Mais cela dit, ce qui est certain, c'est que je pense quand même qu'il y a un manque, comme ailleurs, il y a un manque de moyens, y compris, je crois que c'était début février, lors des manifestations sur les retraites, il y a eu un cortège étudiant qui dénonçait justement le manque de moyens au niveau de l'université. Si j'ai bonne mémoire, à la rentrée, je ne sais plus si c'était en septembre ou en octobre, au niveau du sport...
Oui, les étudiants en STAPS, le manque de professeurs.
Il y a eu un mouvement, parce qu'il y avait 20 professeurs pour 1000...
Mais là, on parlait plutôt de vie étudiante, de sortie, de se sentir vraiment intégré dans la ville. C'est pas une question financière, là.
C'est pas une question... Ensuite, je dirais que c'est quand même sortir, de toute façon... Il y a les logements, il faut avoir un logement, il y a le problème donc des résidences universitaires, il y a y compris justement le problème des ressources que les étudiants peuvent avoir.
Mais est-ce qu'il serait utile par exemple de créer une maison des étudiants en centre-ville, de déménager par exemple une partie de la faculté en centre-ville? Est-ce que ça c'est des sujets qui vous paraissent d'actualité importants?
Ce que je dirais de toute façon, ce qui guiderait notre action, puisqu'on on est dans le cadre des municipales,
des élections municipales.
Là, et donc une mairie de toute façon dirigée par des révolutionnaires ne prendrait aucune décision sans... elle la prendrait en commun avec justement les travailleurs, elle consulterait les travailleurs, la population, les syndicats, les associations, les... en plus même, quand je dis travailleurs, français ou étrangers, avec ou sans papier, ça va de soi, l'ensemble de la population, et ça serait ensemble qu'on pourrait éventuellement trouver des solutions. Et même, encore une fois, mobiliser la population pour arriver justement à ce qu'elle veut.
On passe justement à la partie suivante. La transition est toute trouvée, celle de la façon dont vous allez incarner la fonction de maire, Yves Cher. À deux reprises, vous avez dit le mot révolutionnaire il y a quelques minutes. Une mairie révolutionnaire, ça donne quoi au quotidien? Est-ce que le mot révolution est souvent associé à de la violence? Ce serait un maire violent?
Ça dépend avec qui, mais il y a, je veux dire, la violence, on la connaît tous les jours, justement. Le tableau que je vous ai fait tout à l'heure de l'usine Renault, faire travailler des travailleurs 28 000 de plus gratuits par jour, c'est pas de la violence.
La façon dont vous allez incarner la fonction de maire, on parle pas de Renault, là.
Oui, mais il n'empêche que vous parliez de violence.
Non, mais si vous...
On subit la violence, les travailleurs subissent la violence de ceux qui dirigent la société. Donc, effectivement...
Vous seriez prêt à être violent avec qui, si vous êtes maire?
Eh bien, encore une fois, on organiserait la mobilisation de la population.
Ça veut dire quoi, la mobilisation?
La population, pour ceux qui ont un travail, ça serait effectivement la grève. Parce que là, on bloque la machine à profit.
Donc vous êtes maire,
mais
vous dites tout de suite.
Il y a des endroits où les retraités ne peuvent pas faire grève, ou les chômeurs non plus, puisqu'ils n'ont pas d'emploi, ils ont plus ou pas d'emploi. Une mobilisation, ça peut prendre plein de formes. On parlait de la santé tout à l'heure. Le maire fait partie du conseil d'administration de l'hôpital.
Oui, donc vous boycottez.
Donc, au lieu d'accompagner justement les décisions qui sont prises tout en haut au niveau de la santé, au contraire, ça serait d'organiser, voire de susciter justement la mobilisation du personnel, des patients, de la population pour éviter des fermetures d'hôpital ou de services comme on en... puisqu'il y a des services qui ferment, ou des fermetures de lits, qui vient malheureusement très courant.
Mais là, c'est pas le sujet de la thématique. Mais est-ce que, par exemple, un conseil municipal jeune s'est proposé sur d'autres listes, que des jeunes puissent s'exprimer? Est-ce que c'est une bonne idée pour vous?
Je fais ni jeune, je fais pas de différence entre les jeunes et les vieux. Hein. C'est la population, quel que soit son âge, il faut qu'elle s'exprime. Et il faut aussi qu'elle sache pour pouvoir s'exprimer, il faut qu'elle prenne ses affaires en main, se mobilise, parce que la vie, c'est une lutte permanente.
Très bien, merci beaucoup Yves Cher. On va passer à la dernière partie de cet entretien.
Patron, l'addition.
Ce ne sera pas la gérante, mais quelqu'un qui travaille depuis très longtemps ici, c'est ça, hein, qui va présenter le camp des travailleurs, justement. Bonjour Sylvia.
Et bonjour.
Vous avez Yves Cher qui est à côté de vous. Avant ça, quand même, ça fait combien de temps que vous travaillez ici?
23 ans.
23 ans. Ce quartier, vous l'aimez au quotidien? Vous le ressentez?
Oui, ils sont très agréables. Et on a beaucoup d'habitués. Les gens sont vraiment très, très bien dans le quartier, il n'y a pas de souci.
Merci Sylvie. Alors Yves Cher est avec nous, le candidat de lutte ouvrière à la mairie du Mans. Est-ce que vous avez une question à lui poser?
Ce qui nous manquerait dans le quartier, c'est des places de stationnement. Parce que depuis qu'on a le tram, on est content, mais on a nettement moins de stationnement. Et du coup, je ne sais pas si la ville envisagerait de régler un petit peu ce problème.
De rajouter du stationnement pour les voitures?
Pour les voitures, parce que nos clients, du coup, ne sont pas tous en tram. Il y a des personnes âgées aussi, donc c'est pas toujours facile de se garer dans le quartier. Et je pense que ça amènerait encore plus de clientèle et rendrait peut-être plus vivant le quartier aussi.
Avec davantage de place pour les voitures. Voilà. Yves Cher, est-ce que vous vous engagez, si vous êtes maire, à avoir des stationnements supplémentaires dans ce quartier?
On pourrait essayer. Enfin, encore une fois, il faut en avoir les moyens. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon...
La mairie du Mans a les moyens de rajouter des stationnements, Yves Cher.
On pourrait. Mais de toute façon, je trouve déjà ce qui est un peu scandaleux, c'est que le stationnement soit payant. Donc vous, c'est, je pense que c'est un racket vraiment, mais qui se comprend dans une certaine mesure, puisque je disais tout à l'heure que l'État donnait de moins en moins d'argent aux municipalités et leur demandait de plus en plus de tâches. C'est un moyen qu'ils ont d'essayer de se faire trouver des capitaux. Mais
comme Sylvia
le disait, je pense que effectivement, ça va de pair aussi avec le développement des transports en commun. Pour le moment, il y a la ligne qui passe tout à côté.
On est juste à proximité du tramway.
Là, mais bon, ensuite, ça dépend des horaires, ça dépend de beaucoup de choses. Effectivement, tout le monde prend pas le tram parce qu'en plus c'est payant. Donc,
on
parlait des transports gratuits. C'est ça. J'avais perdu mon idée. C'était là-dessus que je voulais continuer. Mais effectivement, Mais de toute façon, même au niveau du quartier, moi je serais pour justement, même en étant simple conseiller municipal, d'être un peu le. Je pourrais me faire le porte-parole de la population du quartier, des gens qui y travaillent.
Que ça de Pont-Lieu.
Comment ?
De Pont-Lieu.
Au niveau de Pont-Lieu, en sachant que les choses sont jamais faciles et que je pense aussi qu'il faudra que la population, de toute façon, se mobilise parce qu'on ne peut pas régler les problèmes sans mobilisation.
Merci beaucoup Yves Cher, merci Sylvia de nous avoir accueillis dans ce bel établissement,
merci.
Le Maryland, donc à Pont-Lieu. Yves Cher, c'est l'heure de la conclusion, une carte blanche. Vous avez une minute désormais devant vous pour aborder le thème de votre choix, peut-être un thème que vous n'avez pas nous parlé de Renault, hein, rassurez-nous.
Vous pourriez,
c'est libre. Une minute, la carte blanche, c'est à vous.
Je dirais tout simplement que depuis quelques mois, on peut voir clairement que dans la société, il y a deux camps aux intérêts totalement opposés. Il y a dans un camp, il y a celui des travailleurs qui aspirent à une vie digne et une retraite digne, et de l'autre côté, celui des capitalistes, du grand capital, avec ses larbins politiques, sa police, sa justice, qui, justement, mène une dictature totale sur la société, étrangle la société, d'ailleurs, s'en prend aux travailleurs, et même d'ailleurs à toutes, aux autres couches de la population, pour maintenir ses profits. Donc, ça ne pourra être que par la lutte, que par la bagarre, qu'on pourra combattre cette dictature. Et donc, les élections ne changent pas les choses.
C'est pour ça que vous êtes candidat.
Les élections changeraient les choses, on le saurait depuis le temps. Mais ceci dit, justement, on peut au moins se servir de son bulletin de vote pour exprimer la colère qu'on a devant la situation et pour justement envoyer des révolutionnaires, des travailleurs, des gens comme vous et moi, au conseil municipal pour être justement les relais de la population et l'aider dans sa lutte contre le grand capital.
Merci Yves Cher, on est au bout de 7 minutes de conclusion. Je rappelle que ce podcast est disponible sur sweetfm.fr et toutes les plateformes de streaming.